en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Avec ses 17 000 îles, l'Indonésie est le plus grand archipel du monde. Mais un archipel complexe de par son étendue et sa diversité. C'est aussi un archipel émergent. Tel est le thème traité par François Rayon, directeur de recherche au CNRS et éminent connaisseur de ce pays. Il a été invité à le développer devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 25 juin 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente, en le résumant, le parcours de François Rayon.
Vous avez certainement remarqué que depuis quelque temps, on écrit BRICS avec deux I. C'est-à-dire qu'à côté de l'Inde, un certain nombre de personnes ajoutent l'Indonésie. Ce très grand archipel, très divers, m'a semblé mériter une attention particulière de notre part, d'autant plus que la presse française lui laisse peu de place. J'ai demandé à M. François Rayon de nous en parler, parce qu'il est certainement le savant le plus qualifié pour le faire, pour parler de l'Indonésie d'aujourd'hui. Il a toutes sortes de qualifications. Il est directeur de recherche au CNRS, il a dirigé plusieurs années le Centre d'Asie du Sud-Est de l'École des hautes études en sciences sociales lié au CNRS. Il cumule à la fois des compétences littéraires acquises à la Sorbonne, des compétences de sciences politiques qu'il a acquises par un diplôme à Sciences Po, des compétences linguistiques et sur la civilisation de tout le Sud-Est asiatique qu'il a acquises à l'INALCO. Il a passé une thèse en sciences sociales. Il a séjourné très longuement en Indonésie, il y retourne très fréquemment, il y était encore il y a 6 mois, en voyageant à travers toutes les îles de l'archipel. Ses travaux ont porté principalement sur l'histoire politique de l'Indonésie contemporaine et il a étudié avec grand soin la trajectoire tout à fait complexe de ce pays, sa fragilité récurrente depuis son accession à l'indépendance. Et ses ouvrages, dont il cite quelques-uns dans la courte biographie qui vous a été distribuée, sont en réalité beaucoup plus nombreux que ce qu'il a cité. Il a commencé par des études sur des groupes sociaux de l'Indonésie, les étudiants indonésiens et l'ordre nouveau, en 1995, un livre sur les entrepreneurs indonésiens, en 1991. Auparavant, il avait analysé l'Indonésie de Suharto. Et puis, il a suivi l'évolution de l'archipel. L'Indonésie, la réinvention d'un archipel en 1999, qui explique l'évolution depuis la chute de Suharto. Et en 2007, l'Indonésie, les voies de la survie. Et dans beaucoup de ses travaux, il a montré la manière dont un islam relativement modéré a réussi finalement à triompher dans ce pays et aussi une volonté d'être ensemble s'est construite alors que le passé n'avait pas du tout établi ses bases. Je remercie beaucoup M. Rayon d'avoir accepté d'être venu et je le prie de nous parler de l'Indonésie, un archipel émergent, qui est le titre qu'il a choisi pour cette communication. Monsieur, la parole est à vous.
Merci, Madame le Président, pour cette présentation assez favorable qui a été faite de ma personne. Je vous remercie de ces paroles aimables et des compliments qui me sont adressés, lesquels compliments, évidemment, si agréables soient-ils, constituent évidemment un défi, puisque cela m'oblige à me mettre à la hauteur des qualités que vous m'attribuez. Deuxièmement, devant une assistance aussi distinguée, je dois aussi m'efforcer d'être à la hauteur, ce qui est donc un double défi. Le deuxième double défi de cette courte intervention que je vais faire, c'est, vous l'avez évoqué en passant, Madame le Président, c'est la difficulté de mon sujet qui est double, puisqu'il s'agit à la fois d'émergence, il y a tout un corpus de littérature sur cette question, on pourrait passer des heures là-dessus, c'est assez théorique. Et puis d'autre part, associé à ce premier sujet, l'Indonésie, un archipel complexe. Aucun pays n'est facile à présenter de façon brève, mais celui-là en particulier présente des difficultés compte tenu de son étendue, de son immensité, de sa diversité et de sa complexité. Donc ces différents écueils que je dois contourner, je vais essayer de le faire dans un temps raccourci parce que je sens bien qu'il ne faut pas que nous soyons fatigués les uns les autres par une intervention trop longue. Je ne sais pas si le texte que je vous ai fait parvenir, Madame la Présidente, a pu circuler. C'est un texte qui est dans une version un peu plus extensive, ce que je vais vous dire en résumé aujourd'hui. J'ai résumé ce texte un petit peu long en une page avec quelques notes qui vont me permettre de tenir la distance devant vous, je l'espère. Et compte tenu de ces différentes difficultés que présente mon sujet, j'ai envie, avec votre permission, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de commencer cette intervention par une anecdote, ou disons quelque chose, une petite scène que je vais vous décrire brièvement et qui va me servir à entrer dans mon sujet. Cette scène auquel je voudrais me référer, très brièvement devant vous, se passe l'autre jour, disons il y a une semaine, donc c'est assez frais, et ça se situe quelque part au-dessus de l'Atlantique. Un Airbus 330 traverse le ciel en direction de l'Amérique. Et si on s'approche d'un peu plus près et qu'on regarde la coque, on voit plaqué un drapeau rouge et blanc, d'une part, et d'autre part, on voit inscrit la mention Garuda 1, on dit parfois Garuda 1, ce qui est un peu les anglicismes qui triomphent aussi en Indonésie, ou en malais, Garuda Nomar Satu. Donc il s'agit de l'oiseau mythique d'origine hindoue qui symbolise la République d'Indonésie. À bord de cet avion, je dirais que l'ambiance est stratosphérique, ce qui convient lorsqu'on est à 10 000 mètres d'altitude. Et un certain Susilo Bambang Yudhoyono, pardon pour ce nom compliqué, mais il faudra bien qu'on se le mette en tête, en fait, nous sommes déjà familiers avec ce personnage, Susilo Bambang Yudhoyono répond à la presse dans son avion présidentiel, donc il s'agit du premier avion de la République. Le président donne une conférence de presse impromptue, comme ça se passe souvent dans ces cas-là. Il a dans son avion quelques dizaines de journalistes qui le fréquentent. Il y a une question existentielle qui surgit de la part d'un journaliste et qui est la suivante. Je cite, « L'Indonésie est-elle prête à être une grande nation ?» Réponse, « Jamais nous ne serons grands, » réponse du président, « Jamais nous ne serons grands si nous n'osons pas l'être. » Deuxième question, « Quel peut être le rôle de l'Indonésie ?» Nous voulons être un pont entre les civilisations. Le président poursuit, « Nous voulons être une puissance régionale avec une influence mondiale. » Voilà, donc c'est ça la petite scène que je veux décrire. Quelques propos présidentiels tenus à bord d'un avion qui se rend, non pas aux Amériques, bien qu'il y fasse une escale technique, mais qui va à Los Cabos, Mexique, pour la réunion du G20, dont l'Indonésie est l'un des membres dit émergent, ce G20 dont on sait qu'il s'agit de la réunion d'une part de pays développés et d'autre part de pays dit émergents. Si je devais qualifier en quelques mots ces quelques citations que je viens de faire du président indonésien, je dirais qu'elles représentent une sorte de synthèse javanaise. Les javanais étant réputés être les spécialistes de la synthèse. Et qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? C'est le fait de réunir ce qui ne peut pas être réuni, c'est le fait d'associer les contraires et de dire qu'ils ne se contredisent pas. Bref, c'est un exercice assez acrobatique, mais qui est adapté lorsqu'on est dans un avion en haute altitude. Et donc, de ces propos que je viens de citer très brièvement du président indonésien, je retiens trois qualificatifs qui pourraient permettre de les analyser et qui nous donnent, en fin de compte, un aperçu de l'ambiance indonésienne, de l'ambiance mentale de l'Indonésie. J'y vois du doute, le doute, n'est-ce pas? La question du journaliste, sommes-nous prêts à être grands? Révèle sans aucun doute une certaine incertitude. Ça n'est pas que rhétorique. La réponse du président est ambitieuse. Donc le deuxième mot après le doute, c'est l'ambition. Osons et nous le serons. La grandeur est à ceux qui veulent bien y accéder ou qui veulent bien l'apprendre. Et je vois aussi dans cette idée d'être un pont entre les civilisations quelque chose qui est aussi assez ambitieux et qui se place, si vous voulez, un petit peu en opposition avec les thèses de Huntington sur le conflit des civilisations. Et notre président, je veux dire celui-là, est fameux pour avoir fait un discours célèbre à Harvard où il contredisait la thèse du professeur Huntington et où il affirmait que les civilisations ne sont pas condamnées à entrer dans un clash, dans un conflit, et que l'Indonésie s'offre modestement ou ambitieusement à être un pont entre les civilisations. Donc, troisième qualificatif, le doute. Après le doute, l'ambition, j'y vois le désir de la médiation. Le désir de la médiation, vouloir se mettre entre des grands personnages, des grands continents, de grandes cultures, et offrir des possibilités de transaction. Et à travers ces trois mots, je vois un état transitoire de ce pays, puisqu'il n'est pas assuré de sa grandeur, il pense qu'elle n'est pas éloignée de lui, il espère y accéder. Et donc cet état transitoire me paraît une façon de qualifier l'émergence, puisque l'émergence, finalement, c'est probablement le passage d'une situation basse à une situation plus élevée. C'est une transformation. Je n'entre pas davantage dans les aspects théoriques sur lesquels j'ai fait l'impasse dans cette présentation, même si, chemin faisant, je ne m'interdirai pas quelques commentaires à caractère théorique. Alors, je vais rentrer, après cette anecdote, dans le vif du sujet, en évoquant quand même, puisque ça n'est pas si connu que cela apparemment, un peu l'identité de ce grand pays et, très brièvement, quelques-unes des performances qui permettent, qui autorisent certains à considérer qu'il fait partie des pays émergents. Bon. On commence tout de suite par cette population. Alors, je sais, Madame le Président, que comparé à la Chine, cela paraît un petit peu léger, mais ces gens-là ne comptent que 250 millions d'habitants et d'Indonésiens, ce qui est néanmoins considérable, c'est-à-dire mérite d'être considéré, d'autant que ils seront bien plus nombreux, parce qu'à la différence de la Chine qui vieillit, comme on le sait, l'Indonésie reste jeune et elle continue son expansion démographique. Dans 20 ans, on comptera 350 millions d'Indonésiens. Et 20 ans plus tard, si les choses vont bien, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal en réalité, mais enfin, il serait vers l'an 2060, 2065, 450 millions d'Indonésiens. Donc, un ensemble démographique non négligeable. C'est actuellement la 16e économie mondiale. Dans 10 ans, elle sera la 10e économie du monde. Et elle a un taux de croissance de 6%, ce qui, à nouveau, n'est pas à la hauteur des taux mirobolants de la Chine ou même de l'Inde, désormais. Sauf que, alors que ces deux grands pays émergents, l'Inde et la Chine, sont en plein ralentissement du fait de la crise mondiale, l'Indonésie, par miracle, traverse les récessions, celles de 2008, les récessions mondiales, celles de l'actuelle récession, sans être autrement affectée, et fait donc du 6, voire du 7% depuis pas mal d'années. Et il faut dire, il faut bien convenir que ce pays revient certainement de loin, ce qui explique aussi qu'on ne lui prête pas l'attention qu'il mérite, puisqu'il n'y a pas si longtemps, l'Indonésie figurait comme un pays qui pouvait cesser d'être un pays, n'est-ce pas ? Souvenez-vous de 1998, la crise financière asiatique, qui en est à sa deuxième année, et le président Suharto, le général auquel vous avez fait allusion, Madame le Président, démissionne assez brutalement, je veux dire sans brutalité, mais de façon précipitée, et au beau milieu de cette crise absolument considérable, qui donne lieu à un recul terrible du PIB indonésien, moins 13%, c'est une situation à la grecque. Donc on a, si on regarde du côté de l'Asie, on pourrait y trouver un certain nombre de leçons par rapport au sujet qui nous préoccupe actuellement, même si les choses ne sont pas absolument réductibles. Donc, 1998, ce pays paraît au bord du gouffre, de la dissolution, de la balkanisation. On parle d'un trou noir, n'est-ce pas ? C'est une image astronomique. Et pourtant, aujourd'hui, donc, Madame le Président, vous m'invitez à parler de son émergence, donc je suppose qu'il doit y avoir une raison. Vous avez observé, avec d'autres, que ce pays, même si on ne parle pas beaucoup de lui, existe, et de plus en plus. À cet égard, je vous rappelle une autre image qu'il faudrait se mettre dans la tête, c'est un sommet considérable qui s'est tenu il y a 6 mois, en novembre 2011, à Bali, l'île des dieux, cette île hindoue au milieu de cette grande nation musulmane, un double sommet duquel les Européens étaient absents, puisqu'il s'agissait premièrement d'un sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, dont l'Indonésie est le pays leader, et d'autre part, suivi d'un second sommet, le sommet de l'Asie orientale, plus connu sous son sigle anglais EAS, East Asian Summit, n'est-ce pas ? Et qui regroupe toutes les puissances de l'Asie orientale, de la Chine à l'Indonésie, en passant par l'Inde et le Japon, et auquel s'ajoute dernièrement la Russie et les États-Unis. Et on voit, alors, à l'occasion de ce sommet absolument considérable où les chefs de gouvernement et les chefs d'État sont réunis, si j'ose dire, sous la férule de Susilo Bambang Yudhoyono, le président indonésien, on voit une multiplicité de réunions diplomatiques, on refait le monde et on le refait avec optimisme. Le climat est évidemment à l'opposé du climat qui triomphe de par chez nous. Et je voudrais retenir une seule image qui va vous donner à nouveau un petit goût de ce que l'Indonésie est peut-être devenue. C'est cette scène très protocolaire où l'on voit le président Obama, Barack Sutomo, comme on l'appelle à Java, on l'appelle de son petit nom, Barry, de son diminutif. Et Sutomo, c'est son beau-père, c'est le deuxième époux de Madame Obama, qui en première noce avait épousé un Kenyan, n'est-ce pas, dont Monsieur Obama est le fils. Mais en deuxième noce, cette anthropologue a été passée à Java, où elle avait épousé un Javanais, et c'est la raison pour laquelle l'actuel président américain il a passé 5 ans là-bas, n'est-ce pas, et il a une espèce de tropisme indonésien. Donc il était là à nouveau à Bali en 2011, et on le voit, toute la presse indonésienne est là, en train d'assister, les bras croisés, mais avec un air bienveillant, à la signature d'un énorme contrat, dont malheureusement nous ne sommes pas partie prenante, qui est un contrat par lequel une compagnie à bas coût indonésienne, Airlion pour ne pas la citer, signe l'acquisition de 250 Boeing 737. 250, c'est un contrat sans précédent dans l'histoire de l'aéronautique. Et quand bien même je vous ai dit que l'avion présidentiel est un Airbus, ce qui fait que nos chances ne sont pas totalement nulles, et nous vendons quand même quelques Airbus, là nous étions tristement absents. Mais simplement, ce que je veux souligner par là, c'est l'aptitude de l'Indonésie à faire des choses qui paraissent un petit peu hors normes, et sans doute l'intérêt de ne pas ignorer ce qui s'y passe. Alors après cette un tout petit peu trop longue introduction, je vais rentrer quand même dans mon discours à moi, si vous me le permettez, Madame le Président. Et je vais être un peu cursif, puisqu'il faut réserver un peu de place aux échanges entre nous. Je ne vais pas être exhaustif. Je préfère ne pas couvrir le sujet et vous laisser la possibilité de m'interpeller pour manifester votre insatisfaction ou bien votre curiosité. Néanmoins, je pense qu'on peut regarder cette émergence indonésienne en 4 points, dans le détail desquels je vais à peine rentrer, mais que je mentionne. Et pour chacun d'entre eux, je vais me livrer un tout petit développement. Premier point. Vous allez voir, je fais un peu l'impasse sur les facteurs économiques. Madame le Président m'avait demandé d'insister sur les facteurs non économiques de cette émergence. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus mystérieux. L'économie, on croit la connaître, les chiffres nous rassurent, même s'ils ne disent pas tout. Et en fait, j'essaye d'aller au-delà des chiffres, ce qui est un petit peu ambitieux, mais néanmoins qui peut aider à faire penser. Donc, premier point, vous allez voir, ce sont des facteurs très structurels. Je regarde donc les facteurs, les causes qui expliqueraient éventuellement ce processus d'émergence. Puisqu'il s'agit d'un archipel qui sort de l'eau. Émerger, ça veut bien dire, n'est-ce pas, sortir de l'eau. Et on pourrait faire filer la métaphore sur cet archipel volcanique qui, en permanence, sort de l'eau, puisque, littéralement, vous avez des îles qui, non pas tous les jours, mais assez fréquemment, de façon volcanique, sortent des eaux. Alors, premier élément, ce que j'appelle l'atout géopolitique de l'Indonésie. L'atout géopolitique. Deuxièmement, le capital culturel et l'identité nationale. Troisièmement, l'héritage du développement autoritaire. Et quatrièmement, la démocratie bourgeoise. Et j'ai même mis la meilleure et la pire des choses, mais bon. Alors, vous voyez, ces 4 thèmes sont assez ambitieux et chacun d'entre eux pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Donc, je vais vous épargner les longs développements. Mais néanmoins, il faut quand même bien relever l'importance géopolitique de l'Indonésie. Avec ses 17 000 îles, c'est le premier archipel du monde. C'est un espace, n'est-ce pas, qui est, pour parler de façon gaulienne, va de l'Atlantique à l'Oural, et qui regroupe une superficie émergée, les territoires en dur, de 2 millions de kilomètres carrés. Mais surtout, il faut y ajouter toutes ces mers intérieures qui baignent l'archipel et qui quadruplent la surface totale. Alors vous allez me dire, ça n'est que de l'eau, ça n'est que de la mer, c'est de l'eau salée, mais ce sont d'immenses ressources halieutiques. Ce sont surtout des hydrocarbures, alors gaz et pétrole. Le pétrole, l'Indonésie en a beaucoup moins, d'abord parce qu'elle épuise ses ressources et deuxièmement parce qu'elle est en croissance, donc elle consomme elle-même ce qu'elle produit. Elle a quitté l'OPEC. C'est le premier pays des membres de cette association exportatrice de pétrole qui n'en est plus membre, mais elle reste l'un des premiers producteurs mondiaux de gaz naturel. Et nous avons un des fleurons de notre industrie qui est installé là-bas, n'est-ce pas, l'entreprise Total, est également le premier producteur de gaz naturel en Indonésie, qui a été, il y a quelques années encore, le premier producteur mondial de gaz naturel. Et l'entreprise Total, là-bas, est parfaitement connue par tout le monde. Donc, un espace, des ressources, un emplacement. Qui dit géopolitique dit emplacement. L'emplacement est stratégique. Alors, il n'y a pas de carte ici. J'ai préféré qu'il n'y en ait pas. Mais je dessine très, très rapidement pour vous une carte mentale pour vous rappeler que cet archipel, n'est-ce pas, est situé entre 2 océans. C'est assez facile. L'océan Indien à l'ouest, l'océan Pacifique à l'est. Et entre 2 continents, au nord, la Chine, l'Asie, disons, et au sud, l'Australie. Et ce faisant, Je n'enfonce pas les portes ouvertes, je répète l'ancienne répétée par les enfants des écoles, n'est-ce pas, en Indonésie. L'Indonésie est un pays situé entre deux continents et deux océans. Et c'est ce qui justifie la phrase de tout à l'heure du président Yudhoyono qui prétend être un pont entre les civilisations. Parce que c'est vrai que historiquement, ce pays a rencontré beaucoup de civilisations ou alors que beaucoup de gens sont venus lui rendre visite. C'est géopolitique cet emplacement parce que l'Indonésie borde le sud de la mer de Chine et vous connaissez les conflits. C'est une des zones les plus chaudes à part le golfe Persique de la planète. Les conflits potentiels qui se dessinent avec la Chine pour toujours les mêmes raisons. Parce que c'est géopolitiquement avantageux, parce que plus de la moitié du trafic maritime mondial passe par cette zone, Sumatra. Sumatra est une des grandes îles de l'Indonésie, en face de Singapour et de la péninsule malaise. Là, vous avez l'essentiel du trafic mondial qui passe, et notamment les ressources énergétiques chinoises qui viennent du Moyen-Orient, chinoises et japonaises. Donc, il y a là quelque chose de considérable. Et le paradoxe de tout cela, c'est qu'avec cette position stratégique privilégiée, l'Indonésie dite émergente n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ce détroit et d'autres détroits. Et elle a certainement une flotte insuffisante, une marine qui est certes en cours de mise à jour, mais elle ne compte que 150 bâtiments, ce qui est tout à fait paradoxal pour ce qui est le premier archipel du monde. Dernier élément géopolitique, c'est de cette nature absolument impressionnante que l'on rencontre dans ce coin du monde, c'est le côté tellurique de ce pays, à savoir que c'est un pays qui est installé le long de l'équateur, n'est-ce pas, sur une faille sismique considérable. Souvenez-vous du tsunami de 2006. On a vu beaucoup d'images de la Thaïlande, de l'Est de l'Inde, mais en réalité, l'épicentre, c'était Sumatra, à nord, 150 000 morts. Alors, une nature très difficile, incontrôlable, qui teste en permanente la volonté de l'homme. Qu'est-ce que ça produit sur le plan des mentalités? Eh bien, ça produit sans doute, quand on ne peut rien faire, de la résignation, voire du fatalisme et l'appel au ciel pour essayer de s'en sortir. Mais aussi, si l'on survit, parce qu'il faut bien se reconstruire, eh bien, ça forge le caractère et ça nous fait des gens qui sont durs à l'ouvrage, qui travaillent, qui peuvent être entreprenants, qui sont comme des espèces de Japonais. Vous voyez l'image de cet autre archipel tellurique et vous voyez ce que ça donne quand l'émergence est arrivée à destination, ce qui est le cas du Japon. L'Indonésie pourrait marcher peut-être sur les traces du Japon. J'en arrive donc à mon deuxième point, le capital culturel et l'identité nationale. Alors là, je ne peux pas faire autrement que de mentionner, si vous voulez, une espèce de durée dans l'histoire qui fait que cette Indonésie n'est pas un accident, ni de la nature, ni du ciel, puisque j'en parlais, pour ceux qui y croient, mais c'est quelque chose qui est lié à l'activité des hommes. Et je prononçais ce mot, s'il y a un seul mot que vous pourriez retenir de cette séance, un mot indonésien, c'est le mot « nusantarien ». « Nusantara », ça veut dire « archipel », donc c'est le mot qui reprend le thème de ma conférence. Et « nusantara », c'est de l'indo-européen, c'est dérivé du sanskrit, n'est-ce pas? Mais c'est de l'indo-européen, donc vous allez certainement, sans aucune difficulté, décrypter ce mot. « Nusantara », vous reconnaissez le mot « nessos », du grec, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans Indonésie, Polynésie, l'île, les îles. Donc c'est ça, c'est parfaitement transparent. Et Antara, eh bien, c'est le latin inter, international. Donc c'est entre les îles, cette notion d'inter-insularité, voilà qui définit l'archipel. Et donc cet archipel, c'est un espace humain qui est bimillénaire, au minimum, et qui a forgé une culture, parlons peut-être pas de civilisation, encore que, bon, il faudrait rentrer dans la querelle des termes. Mais c'est cette longue durée sur un espace gigantesque caractérisé par les échanges insulaires, par la navigation maritime, par l'esprit d'entreprise qui a produit ce qui est devenu la nation indonésienne. Alors, la nation indonésienne, c'est à la fois une construction nationale, mais c'est vraiment aussi lié à un environnement. Et à ce titre, le nationalisme indonésien n'est pas un nationalisme du jus sanguinis. C'est un nationalisme du sol, juste soli. On est indonésien parce qu'on est sur ce territoire-là. Donc c'est une notion d'une nationale ouverte, un petit peu à la française, si vous voulez. Et d'ailleurs, les Indonésiens ne se privent pas de citer Ernest Renan dans le texte. N'est-ce pas? Être indonésien, c'est vouloir être ensemble, le désir d'être ensemble. Donc c'est accueillant comme formule, n'est-ce pas? Tous les peuples, les différents groupes ethniques qui sont très divers sur l'archipel ont vocation à en faire partie. Ça n'a pas empêché les Indonésiens de faire preuve de racisme de temps en temps, notamment à l'égard des Chinois, qui depuis toujours ont été présents, parce que c'est un lieu d'échange, n'est-ce pas? Toutes les nations de l'Asie ont toujours été présentes dans les ports de l'archipel. Bien, donc on a, si vous voulez, ce nationalisme accueillant, fondé sur la coexistence ethnique, et Parmi tous ces peuples, il y en a un qui compte un peu plus que les autres. Du moins, il y a, parmi les égaux, il y a un primus inter pares, et ce sont les Javanais. Les Javanais ne sont pas le peuple majeur, au sens où ils détiendraient une majorité statistique. Ils ne représentent que 40% de la population indonésienne. Ça fait quand même plus de 100 millions de Javanais. Il y a plus de Javanais qu'il y a de Français. Et ces gens-là ne se contentent pas d'être le premier bloc ethnique dans la population indonésienne, mais ils sont véritablement les porteurs du projet culturel indonésien et du projet nationaliste indonésien. Et c'est eux qui, je parlais de la synthèse javanaise du président indonésien tout à l'heure, ce sont eux qui formulent ces synthèses, ces syncrétismes, comme on dit parfois de façon désobligeante, et qui assurent ce brassage. Bien. L'héritage est diversifié, il faudrait parler du paternalisme néerlandais, et il faudrait parler de la révolution de 1945, qui permet une première émergence de cet archipel, puisqu'il accède à son indépendance. Et donc, si c'est le cas, l'actuelle émergence serait finalement une réémergence. Et là, Madame le Président, vous reconnaissez un thème qui est valable évidemment pour la Chine et pour l'Inde. Dans le cas du Brésil, je ne sais pas si on peut parler de réémergence, mais bien souvent, l'émergence d'un nouveau pays industriel ou d'un pays qui décolle, d'un pays que l'on dit émergent, c'est simplement le retour à un passé ancien qui autorise, si vous voulez, c'est le fait de renouer avec une dynamique ancienne. C'est le fait d'avoir une identité forte qui permet de vouloir plus, d'avoir des ambitions. Bien, l'État indonésien est constitué, 1945. Les cinq principes, vous savez, les Pancasila, c'est-à-dire le fait que la République d'Indonésie, vous l'avez vu sur l'avion présidentiel, n'a pas mis le quart de lune ni l'étoile musulmane. Elle a mis un Garuda hindou. Alors que nous avons affaire à la première nation musulmane du monde. Ça n'est pas un État islamique. C'est une république, pour faire court, séculière, avec des musulmans, généralement modérés, mais avec une minorité active, qui est vocale, au mauvais sens du terme, enfin, comme disent les Anglais. Et tout cela produit, il y a eu le non-alignement, on a donc un pays chatouilleux sur son indépendance, qui se dit libre et actif, la diplomatie indonésienne n'a que ce mot-là à la bouche, libre et actif. Donc il n'y a pas d'appartenance à une alliance stratégique de la part des Indonésiens, même s'ils sont les amis des Américains. Les Américains aident les Indonésiens dans les espaces que j'ai décrits précédemment à assurer la sécurité. Les Américains et les Japon font la police avec leur septième flotte, dans la mer de Chine, et ils traversent les détroits indonésiens avec l'accord du gouvernement indonésien pour faire face à l'ennemi du Nord. L'ennemi du Nord, c'est un euphémisme qui désigne la Chine. Alors, donc, on a une espèce d'exception indonésienne. Si vous voulez, les Indonésiens se pensent exceptionnels, comme beaucoup de peuples. Leur spécificité est telle à leurs yeux qu'ils se croient différents du monde entier, même s'ils sont accueillants. Troisième point, c'est l'héritage du développement et qui vient s'accumuler au point précédent. Le point précédent, c'était sur ce capital culturel, cette notion d'identité nationale forte, même si elle est complexe. L'héritage du développement autoritaire. Donc là, je me réfère à la période du général Suharto, n'est-ce pas ? Pendant 32 ans, 1966-1998, on a un dictateur. J'emploie ce mot à dessein, même s'il l'aurait peut-être récusé, parce qu'au départ, c'est un peu un dictateur à la romaine. Lorsque la République, dans la première période de l'histoire de Rome, va mal, on appelait un dictateur en le priant de remettre de l'ordre dans les affaires de la cité. Et, évidemment, il était prié de dégager, pour parler comme les foules arabes, de dégager lorsque la mission était accomplie. Donc, le général Suharto arrive comme un général qui vient remettre de l'ordre après les années hyper-nationalistes de Sukarno, et il lance un développement brillant qui est une deuxième émergence de l'Indonésie. L'Indonésie devient, à l'époque du général Suharto, le bon élève de la Banque mondiale. Et, bon, révolution verte, je passe sur les détails. Simplement, cette belle expérience avec une croissance à la chinoise pendant 20 ans. L'Indonésie, avant la faillite de 98, a connu une très belle période avec des taux de croissance à 8, 9, 10% à la chinoise, n'est-ce pas? Et tout cela finit de façon dramatique, donc, en 98, avec cette crise financière sur laquelle je ne reviens pas et qui permet d'introduire mon quatrième point. C'est-à-dire celui de la démocratie, puisque le général doit partir de façon assez piteuse, et non sans avoir quand même posé les bases, les fondamentaux d'un développement, d'une croissance indonésienne. À l'époque, on parlait d'un futur NPI, nouveau pays industriel. L'Indonésie figurait parmi les gens qui suivaient la deuxième escouade. Vous avez le Japon, la deuxième escadrille, c'est Hong Kong, Singapour, Corée du Sud et Taïwan, des pays autoritaires, comme si l'autoritarisme politique aidait à un moment donné le développement économique. Et donc cet héritage autoritaire a laissé des traces, malgré la faillite de 1998, sous la forme d'un appareil industriel qui est déjà disponible, une reconversion du tout pétrolier vers une diversification des productions et des exportations, et surtout la naissance et le développement d'un groupe central, un groupe social central, la classe moyenne. Il y a toujours une classe moyenne, qu'il y a des pays qui n'en a pas, mais pour qu'elle compte, cette classe moyenne, il faut qu'elle devienne numérique. Je ne veux pas dire électronique, mais je veux dire qu'il faut qu'elle devienne nombreuse, qu'elle devienne quantitativement substantielle, pour que l'Indonésie ne soit pas un pays comme l'Inde autrefois ou comme la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire ce triangle social avec en haut une élite resserrée d'oligarques, n'est-ce pas ? En bas de la pyramide, un très large plateau de population déshéritée, et puis rien au milieu. Vous voyez, donc on se demande d'ailleurs comment tient cette pyramide, s'il n'y a rien au milieu. Non, là, lorsqu'on a une classe moyenne importante, la forme de la pyramide sociale est tout à fait différente. Et c'est cette classe moyenne qui va produire les réformes démocratiques de 1998 et qui décide, avec les élites produites par cette classe moyenne, qui ont une tendance un petit peu à l'oligarchie, parce que comme en Russie, ils ont tendance à faire fortune sur la base des matières premières dont regorge l'Indonésie. Néanmoins, ces élites se mettent d'accord pour se livrer à une concurrence politique apaisée, plutôt que de se battre à coups de violence ou d'assassinats possibles ou de déclenchement de guerres locales ou de prétendre vouloir se séparer, de vouloir faire sécession, ce qui était la menace en politique souvent jusque-là, parce qu'on n'était pas d'accord avec Jakarta. Là, ils choisissent une règle du jeu électorale, démocratique, qui change tout. Deuxièmement, ils font une formidable décentralisation qui explique que cet archipel dont nous croyions qu'il allait se balkaniser en 1998 ne l'a pas fait, car cette décentralisation a remaillé le territoire de l'archipel, a remis dans le coup toutes ces provinces, toutes ces préfectures, tous ces départements qui se sont appropriés le modèle politique jakartanais et qui en ont fait leur chose. Et donc, on a depuis une douzaine d'années, alors malgré quelques tentations islamiques, je reviendrai là-dessus si vous le voulez, on pourrait faire l'histoire de la conjoncture politique depuis sous la démocratie. Mais je glisse rapidement pour gagner du temps. Laissez-moi simplement dire à ce propos que ce qui marque cette période, vue d'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est quand même la présence de ce personnage par lequel j'ai commencé mon exposé, c'est-à-dire Susilo Bambang Yudhoyono. C'est pas nécessairement son action, mais c'est plutôt le symbole qu'il représente de classe moyenne montante, modérée, musulmane, mais déclinant tout excès, préférant une espèce de coexistence politique pacifique à une rivalité trop dure. Et dans un tel cadre politique, on voit les rivalités des entrepreneurs, on voit la libération des forces du marché. Dans cette démocratie qui se dit démocratie de marché, market democracy, on voit non seulement les groupes ethniques doués, vous savez, quand vous avez une multi-ethnicité, vous avez des groupes soi-disant qui seraient plus doués pour la contemplation, mais d'autres qui en revanche auraient un talent, si on essentialise un peu, qui auraient un talent pour le business. Alors on a en Indonésie les fameux marins bougis, vous avez encore tous ces formidables voiliers qui autrefois allaient à Madagascar, qui pouvaient aller jusqu'en Polynésie, qui sont toujours là, ils sont plus sur leur voilier, mais ils font du business, ils sont très bons. Vous avez les Minangkabau, qui sont de formidables entrepreneurs, qui sont capables de battre les entrepreneurs chinois. Vous avez la minorité sino-indonésienne qui a été rétabli dans ses droits par le président Wahid il y a quelques années et qui n'est plus discriminé et qui peut absolument participer non seulement au business mais aussi à la vie de la cité. Et on a même des petits entrepreneurs musulmans qui sont des musulmans dévots et pieux mais qui sont weberiens, vous savez, qui ont une éthique protestante du travail, si je peux dire ça à propos de musulmans. Et donc il y a une sphère publique absolument formidable. Et c'est ça la différence avec la Chine, qui est incontestablement plus avancée que l'Indonésie, sur le plan économique tout au moins, mais la vie politique et médiatique en Indonésie est totalement libérée. C'est le troisième pays du monde pour le nombre des internautes, après les États-Unis et l'Inde. Il y a plus d'internautes en Indonésie qu'en Chine, alors que la Chine, c'est quand même très gros. Et il y a une conversation internétique extrêmement développée en Indonésie, et de cette façon-là, les Indonésiens participent à la globalisation. Quand ils sont un peu trop nationalistes comme nous, ils peuvent être tentés par le repli, le refus et le protectionnisme. Mais quand ils réfléchissent deux secondes, ils se retournent vers leur passé et ils voient que dans leur histoire, il y a de nombreux modèles. Chaque fois qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, eh bien, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'ils fassent de la réouverture et qu'ils accueillent tous les gens qui n'ont cessé de venir les voir. Tous les gens qui sont venus les voir, sauf peut-être les Français, je pourrais terminer cette causerie par quelques éléments sur la France, qui, malgré les efforts de la diplomatie française, là je salue M. Lévit, et qui est un éminent diplomate, et qui connaît l'Indonésie. Mais, si vous voulez, notre politique étrangère, c'est pas la faute des diplomates, c'est peut-être la faute de nos politiques, a manqué de continuité. Il y a toujours eu une curiosité et un intérêt de notre part pour cet archipel que je viens de vous décrire de façon cavalière, n'est-ce pas ? Mais souvent à contre-temps. Alors, quelques mots, pour terminer, Madame le Président. La France avait mis le paquet, si vous me passez cette expression, en termes de coopération avec l'Indonésie dans les années Suharto. Pourquoi pas ? Mais c'est un petit peu... C'était de république à république, mais la République française puis la République indonésie, à l'époque du général Suharto, c'était un peu lointain quand même. Politiquement, idéologiquement, c'était pas tout à fait la même chose. Mais la France, à juste titre, souhaitait être présente dans cette Asie du Sud-Est dynamique et elle avait mis le paquet. Bien. Pourquoi pas, après tout? Le paradoxe, c'est que lorsque le général tombe, et à l'époque, je veux dire, avant du temps de Suharto, l'Indonésie était le pays le plus aidé par la France dans le monde entier, en dehors du précaré africain. Quand le général Suharto tombe, les Français ont eu une espèce d'attitude de méfiance et de repli, parce qu'effectivement, tout le monde pensait, l'Indonésie, c'est fini, il faut absolument, la chose à faire, c'est de s'en retirer. Et c'est ce que les Français, malheureusement, ont fait. Alors que nos amis américains, là, se sont mis à investir massivement, non pas économiquement, mais politiquement. Ils ont fait des transferts de technologies politiques, électorales, démocratiques. Vous savez, il y a une institution aux États-Unis qui s'appelle la National Democratic Institution, qui est un organisme bipartisan et qui fait la promotion de la démocratie dans le monde. C'est le bras idéologique de la République des États-Unis. Eh bien, ils ont été extrêmement actifs en Indonésie pour favoriser, pour faciliter la conversion à la démocratie. Ça marche très bien. Et transformer l'Indonésie, non pas en allié, mais quand même en ami dans la lutte contre le terrorisme, notamment le terrorisme islamique. Et ils ont obtenu de bons résultats. Donc, la France, par rapport à tout cela, a une présence en dents de scie. Et ça, c'est quand même un petit peu regrettable. Vous me direz que c'est loin, l'Indonésie. Mais finalement, il faut quand même bien être là où les choses se passent. Je veux dire, là où il y a de la croissance, par exemple. Nous cherchons à la décréter, ici. Mais il y a des lieux dans ce monde où elle existe et où elle est auto-alimentée. Donc, il faut peut-être participer à cela. L'Union européenne, parce que nous autres Français, nous avons du mal à exister en Asie du Sud-Est si nous ne sommes pas avec nos amis partenaires de l'Union européenne, est un petit peu présente, mais elle n'a aucun moyen militaire, à la différence des Américains. Elle a à peine une diplomatie commune, même s'il y a des délégations de l'Union européenne à Bangkok et à Jakarta. Donc je pense que la France ne peut pas oublier l'Indonésie, qui est le leader naturel de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, face à la République populaire de Chine, qui n'est pas un ennemi, mais c'est une alternative. Je vous remercie.
Pour lire le texte de cette communication dans son intégralité, consultez le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de la série proposée par le président de l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, sous le titre général « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont rediffusées par Canal Académie.